comme promis, nous allons donc ce matin traiter d'un cœur pour Christ. Il nous est absolument impossible d'avoir un cœur pour Christ sans un vrai changement au-dedans de nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce thème, ce sujet nous conduit tout naturellement à nous entretenir de changement. Et en parlant de changement, nous sommes du même coup dans le vent. Nous sommes in, hein, et non pas out, en parlant de changement. Mais il y a changement et changement. Alors, ce matin, nous allons parler du changement de Dieu. Lisons quelques versets tout d'abord dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 3. Le fameux entretien entre Jésus et Nicodème. Jean 3, 3. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons entendu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, la nouvelle naissance étant donc une affaire devant se passer sur la terre, une chose terrestre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. À ces textes, j'en ajouterai trois autres. Le premier se situant en 2 Corinthiens 5, 17, et je suis persuadé qu'il est connu par la grande majorité d'entre nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, tout est devenu nouveau. Nous pourrions encore lire Galates 6, 15, où l'apôtre écrit ce qui suit. Ce qui importe, ça n'est pas d'être ceci ou cela, suisse ou français, catholique ou protestant, etc. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Nous pourrions encore citer de mémoire ce texte d'Apocalypse 21, 5, où Dieu lui-même parle en ces termes, nous disant ce matin ce qui suit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ne voudriez-vous pas, mes amis, que Dieu fasse ce matin toute chose nouvelle pour vous? Toute chose nouvelle dans ce jour du 22 août 1981. Ce matin, Dieu voudrait faire toute chose nouvelle chez ceux qui n'ont pas encore passé par la nouvelle naissance qui change l'homme d'aujourd'hui, lui donnant un cœur nouveau, un cœur pour Christ. Et enfin, un dernier texte, dans l'évangile de Marc, au chapitre 12 et au verset 13, c'est Jésus qui parle, nous disant ce qui suit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un cœur pour Christ nécessite donc le changement du cœur. Qui pourra changer le cœur de l'homme? Le savant, le grand savant de l'atome, Einstein, a dit un jour, « Il est plus difficile de désintégrer un atome de plutonium que de changer le cœur de l'homme. » Qui peut changer le cœur de l'homme? Qui peut changer le cœur du Français, le cœur du Suisse, le cœur du Belge, le cœur de l'Allemand, etc. Il y a peu de temps en France, on nous a entretenu d'un changement de politique. Et la France a voté pour ce changement. Mais je n'ai entendu aucun candidat à l'élection présidentielle parler du changement du Français, de son cœur, de sa mentalité, de son caractère. L'homme, lui, change les structures. Il veut nous changer la politique. Lui, Dieu, change le cœur de l'homme. Il change l'homme lui-même. C'est fou ce qu'on a pu nous entretenir de changement ces temps passés. En tout cas en France, ainsi, nous a-t-on par exemple entretenu de changement dans le calme, de changement sans risque, de changement par la révolution violente. Mais comme le dit avec justesse le vieux dicton français, plus ça change et plus c'est la même chose. Tenez, par exemple, il y a peu de temps, me trouvant dans l'Ontario, au Canada, pour une série de conférences sur la France. Le frère chez lequel j'avais été reçu, à mon départ, m'a dit, écoutez, nous aimerions, à l'occasion de votre passage, vous laisser un souvenir. Je vais donc vous conduire dans un magasin, et vous pourriez choisir ce que vous voulez en souvenir de votre passage chez nous à la maison. Vous pourriez acheter une chemise, une cravate, etc. Bon, très bien, mais c'est gentil de votre part. Et nous sommes allés au magasin et j'ai choisi une cravate. Et cet ami voulait bien sûr que je choisisse une belle cravate, ce que j'ai fait volontiers, hein. Et il m'a dit, ainsi vous aurez un souvenir du Canada. Ça va changer. Ça va changer de toutes ces cravates que vous portez et qui sont des cravates françaises. J'ai mis cette cravate dans ma valise et je suis rentré à Paris. Une fois à Paris, j'ai montré cette cravate à ma femme en lui disant, tu vois, c'est un souvenir de l'Ontario, de Londres, en Ontario, que m'ont offert les amis qui m'ont reçu chez eux. Et ma femme, en regardant cette cravate et en l'ayant retournée, me l'a montrée pour me dire une cravate canadienne. Tiens, lis donc cela. Yves Saint-Laurent, Paris. Plus ça change et plus c'est la même chose. Eh bien, Dieu, lui aussi, parle de changement. Mais son changement à lui n'est pas le changement que nous propose les hommes d'aujourd'hui. Le changement de Dieu s'opère au fond, au plus profond de nous-mêmes. Il consiste dans un changement du cœur, de la mentalité, du caractère. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans cette intervention de la jeune fille, Mademoiselle Brunet. Dieu donc, lui aussi, parle de changement. Et qu'est-ce qu'un chrétien, au fond, essayons de comprendre? C'est quoi un chrétien? Oh, je me souviens, il y a quelques années, lorsque j'étais encore sédentaire, ne voyageant pas, mais servant le Seigneur dans la région parisienne, nous sommes allés dans les avenues avec des jeunes chrétiens pour questionner les Parisiens et surtout pour leur poser la question suivante, dites-nous, pour vous, qu'est-ce qu'un chrétien? Et toutes sortes de réponses nous étaient arrivées, nous avions mini-cassettes, magnétophones, etc., en main. Et les réponses généralement reçues ont été les suivantes. Un chrétien, c'est quelqu'un venu au monde dans une famille chrétienne. Comme si le christianisme était une affaire d'hérédité. Mais combien êtes-vous ici à être venu au monde chrétien? Ou bien, en d'autres termes, combien êtes-vous ce matin dans ce lieu à être venu au monde en chantant un cantique? Le 258. On peut avoir les meilleurs parents chrétiens qui soient au monde, ça peut nous prédisposer à devenir chrétiens, mais ça ne fait pas de nous des chrétiens automatiquement. La foi est une affaire très personnelle. Alors, nous ne pouvons pas dire que nous sommes nés chrétiens, on est homme, femme, blanc, jaune, rouge ou noir de peau, mais on ne naît pas chrétien. Tenez, à ce sujet, je me souviens de l'histoire que me raconta un officier de l'armée du salut. Une histoire qui s'était arrivée, qui s'était produite dans son poste au pays de Montbéliard. Il paraît que dans cette région, un jour, se trouvait un buveur, un ivrogne invétéré, quelqu'un qui marchait à l'alcool, littéralement, et qui, bien sûr, avait semé ainsi l'enfer dans son propre cœur, dans sa propre vie, et puis dans son foyer. Quand un jour, par un hiver rigoureux, il eut la bonne idée d'aller assister à une réunion de l'armée du salut, s'asseyant au fond de la salle. Le message fut donné, et dans ses vapeurs, et malgré ses vapeurs d'alcool, ce buveur, cet ivrogne, vint jusqu'au banc des pénitents, ayant réalisé, comme dans un éclair de lucidité, qu'il y avait là, dans ce message, le seul espoir pouvant changer sa vie. Son cœur, il s'était donc avancé dans la repentance. Et à partir de là, cet homme, bien sûr, fut complètement différent, transformé, changé. Et tout changea aussi dans son foyer. À partir de là, bien sûr, il ne manqua plus une réunion de l'armée du salut. Mais un jour, cet homme se trouva malade, atteint d'une mauvaise grippe dans son lit, un dimanche. Il avait coutume de se rendre aux réunions avec son garçon, haut comme trois pommes, un petit garçon. Mais ce dimanche-là, ce sont garçon d'aller vers son papa pour lui dire « Mais alors, on ne va pas à la réunion aujourd'hui, tu es malade ? Me donnerais-tu l'autorisation d'y aller seul ?» Et cet homme de répondre, ce papa de répondre « Certainement ». Seulement, fais très attention en traversant les rues, n'écrase point de voiture, et puis vas-y. Voilà notre petit garçon parti, et comme un grand, tout seul à la réunion pour prendre place à l'endroit où il avait coutume de s'asseoir avec son père. Et ce dimanche-là, l'officier de l'armée du salut avait demandé qu'on rendît témoignage, mais personne ne voulut se décider à rendre son témoignage ce dimanche-là. Ceci arrive souvent qu'on ne veuille pas rendre son témoignage. Alors l'officier, un peu découragé, de faire chanter une strophe de cantique, d'appeler à nouveau, de refaire chanter, d'appeler encore, et personne. Et le petit garçon, dans sa petite tête, de se dire, mais dites donc, si papa avait été là, certainement qu'il aurait rendu son témoignage. En effet, son père ne manquait pas une occasion de rendre son témoignage. Et l'officier continuait d'appeler. Quand le petit garçon, poursuivant cette idée dans sa petite tête, de se dire « Et si je faisais comme si papa était là ?» Et il leva la main. L'officier de l'armée du salut le vit et lui dit « Mais viens donc, mon garçon, on peut être enfant et chrétien, chrétien et enfant. » Et le petit garçon est venu jusque sur l'estrade. On dut descendre le micro à son niveau. Et une fois devant l'auditoire, ce petit garçon, l'air grave, de commencer avec ces mots, « J'étais un gros buveur. » Chaque soir, en rentrant chez moi, je battais ma femme. Etc. Ne rendant pas la paye à la fin du mois, le voilà parti rendant le témoignage de son père. Et bien sûr, tous s'étaient mis à rire comme vous le faites parce que c'est risible. Ce témoignage sonnait faux dans sa bouche. Il ne lui appartenait pas. Pourquoi cette histoire ? Parce que bien des gens, des hommes, des femmes, par exemple, dans les Cévennes, quand je m'y rends de temps à autre, me disent « Mais Alain Joaquier, vous savez de qui nous descendons, nous ?» Des Huguenots. Alors nous avons reçu l'évangile au biberon. Nous savons tout ce que vous allez nous dire, nous le savons, depuis longtemps. Mais êtes-vous né de nouveau ? Il est bon d'avoir eu des ancêtres huguenots. Mais qu'est-ce que ça change chez vous ? Ça ne fait pas de vous une nouvelle créature ? Ça ne vous sauve pas ? Seul Christ sauve ! Combien il arrive souvent que nous tenions aux autres le langage de ce petit garçon. Ou quand je suis en région catholique, on me dit aussi, vous savez, M. Joaquier, dans ma famille, nous avons deux bonnes sœurs et trois prêtres. Mais qu'est-ce que ça change chez vous, cela ? Est-ce que ça vous sauve ? Est-ce que ça vous fait naître de nouveau ? Est-ce que cela vous donne un cœur pour Christ ? On peut être chrétien par éducation pour avoir reçu l'évangile au biberon. On peut être chrétien par tradition. Le Christ voudrait que nous le soyons par nouvelle naissance. De sorte qu'il n'y a que deux catégories d'hommes devant Dieu ce soir, ce matin, pardon. Oui, vous pouvez vous dire, mais il est déjà au soir, lui. Mais l'évangile, nous le prêchons généralement le soir. Et je dois vous dire qu'il m'est tout drôle de le prêcher comme ça dans une matinée. Hein, généralement, la prédication se passe dans l'obscurité, enfin l'obscurité à l'extérieur, bien sûr. Mais ce matin, cette prédication pourrait s'adresser à des cœurs dans l'obscurité, qui pourraient trouver la lumière du Christ, qui pourraient recevoir un nouveau cœur, une nouvelle vie, d'en haut du Christ lui-même. Oui, il n'y a que deux sortes de personnes ce matin devant Dieu, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui peuvent avoir la meilleure religion qui soit. J'admets qu'il puisse y avoir des religions meilleures que d'autres, mais la Bible dit qu'aucune religion ne sauve. Aucune église ne sauve, seul Christ sauve, et c'est lui qui nous fait naître de nouveau. Alors c'est quoi un chrétien ? On nous dit c'est quelqu'un qui a été baptisé. C'est la réponse obtenue dans les rues de Paris. Alors j'admets que quelqu'un qui a été baptisé peut être chrétien, mais il peut aussi se faire qu'un baptisé ne soit pas chrétien du tout. Quand je pense qu'Hitler a été baptisé, écoutez, si vous me dites Hitler, nous le retrouverons au royaume de Dieu, il n'y entre pas. À moins qu'il ait changé d'avis en route, hein, avant sa fin. Il a été baptisé. Et l'on peut être né de nouveau, vraiment chrétien, sans avoir été baptisé. Prenons l'exemple du brigand sur la croix, hein, perdant son sang en abondance à côté du Christ, lequel, s'adressant au Christ, lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce brigand n'avait jamais été baptisé. Il n'avait jamais fait de bonnes œuvres. Il était en train d'expier ses œuvres criminelles. Sans baptême, sans œuvre, il a reçu là, sur la croix, la promesse de la vie éternelle. Voilà qui peut-être nous secoue quelque peu dans nos convictions. Pourtant, nous trouvons ces choses dans les Saintes Écritures, je n'invente rien. Alors c'est quoi un chrétien ? On nous dit c'est un protestant, c'est un catholique, c'est ceci, c'est un baptiste. Admettons qu'un protestant peut être vraiment chrétien, mais peut aussi ne pas l'être. Si comme moi vous avez entendu Michel Rocard, hein, qui est à présent ministre en France, interviewé par Jacques Chancel à Radioscopie, une émission française qui se situe vers les 5 heures chaque jour, sauf le samedi, et dimanche. Eh bien, ce Michel Rocard a dit ce qui suit. Je suis issu de la haute aristocratie protestante de France. Je suis un parpaillon, il a même employé ce terme. Mais je ne suis pas, mais je ne crois pas en Dieu. Alors on peut être protestant et païen, j'allais dire, catholique et païen. Mais heureusement qu'un catholique peut être vraiment authentiquement chrétien, qu'un protestant peut l'être aussi, qu'un évangélique peut l'être aussi. Alors c'est quoi un chrétien, au fond? Comment le définir? Si vous avez lu Un seul chemin, mon livre, je donne la réponse. Je dis qu'un chrétien est un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, né deux fois. Parce que vous êtes né deux fois, vous, Alain Joaquier. Il semble que l'air de Beatenberg et de la montagne ne vous convienne pas. Vous êtes né deux fois? C'est ce qu'on me dit souvent. Mais oui, je suis né deux fois. Et combien avec moi ce matin sont nés deux fois? La main en haut. Vous voyez que je ne suis pas le seul fou ce matin, dans ce lieu. Une première fois né de la chair, comme le dit Jésus, nous l'avons lu tout à l'heure. Une seconde fois né de l'esprit. Un chrétien est un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, né deux fois. Êtes-vous né deux fois? Il n'y a que deux sortes d'hommes sur la terre aujourd'hui, ceux qui sont nés une fois et ceux qui sont nés deux fois. Dans quelle catégorie vous situez-vous? Peu importe votre dénomination, c'est la nouvelle naissance qui tranche. Elle vous situe d'un côté ou de l'autre. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas un cœur pour le royaume de Dieu. Il importe donc ce matin de faire le point de manière très sérieuse et la Bible de poursuivre encore qu'un chrétien est quelqu'un né non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais quelqu'un né de Dieu. C'est quoi la nouvelle naissance? Je vais tenter de vous expliquer l'inexplicable. Comment Dieu opère-t-il ce miracle dans le cœur de l'homme? Quand le cœur de l'homme s'ouvre au message de l'Évangile, ce message, l'homme le reçoit comme une semence de vie, très profondément en lui. Et cette parole reçue, ce message de vie, vient comme être fécondé par l'Esprit de Dieu, lequel, lui aussi, vient dans le cœur qui s'ouvre à Dieu, dans la repentance et dans la confiance. Et que se produit-il alors ? Dans le cœur de l'individu, une sorte de fécondation spirituelle. La parole de Dieu reçue, le cœur ouvert, vient être fécondée comme fécondée au plan spirituel par le Saint-Esprit. Et le résultat de cette fécondation spirituelle, c'est l'être nouveau, le cœur nouveau, l'homme nouveau, qui porte l'image du Christ. Et on ne devient chrétien que par cette voie-là, cette opération de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus n'a pas dit à Nicodème, ce serait peut-être une bonne chose que vous naissiez de nouveau. Ça vous changerait quelque peu ou non. Il a été impératif. Il faut, il importe, c'est urgent. Parce que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne le verra pas. Êtes-vous né deux fois? Dans l'Ontario toujours, lors d'un autre voyage, j'ai été accosté dans la rue par un homme, un grand homme, au blouson de cuir, aux cheveux longs, mais un chrétien authentique, qui distribuait des traités évangéliques. Et cet ami qui ne savait pas qui j'étais m'a donné un traité que j'ai pris. Et savez-vous comment se présentait ce traité, dans quels termes? Oh, j'ai aimé. Si une première naissance ne vous a pas satisfait, essayez donc la seconde. Oui, cette seconde naissance s'est passée chez moi où il y a maintenant environ 30 ans. Et elle m'a donné un cœur pour Christ, un cœur qui aime Christ. Un cœur nouveau, un cœur changé. La Bible dit, si quelqu'un rencontre le Christ, c'est un homme neuf. L'Évangile m'a rendu neuf. Vous a-t-il rendu neuf ? Quand on cite ces textes, alors certains pensent, mais où les voyez-vous ? Nous les avons cités tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tous ceux dont nous avons entendu les témoignages nous ont parlé de ce changement profond que Dieu a opéré en eux. Ce changement du salut. Ah, la nouvelle naissance. Rien ne peut la remplacer. Seule, elle peut faire d'un homme nouveau, d'une femme, une femme nouvelle, d'un jeune homme nouveau. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration. Ça ne veut pas dire que nous essayons de nous changer nous-mêmes. Elle ne consiste pas dans un replâtrage, dans un rafistolage, dans le rafistolage d'une vie qui se désintègre, d'une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Naître de nouveau, c'est se refaire une existence, toute neuve, toute nouvelle avec Christ. Naître de nouveau, c'est changer de vie, c'est changer de route, c'est changer d'horizon. Naître de nouveau, c'est passer de la mort à la vie. Oh, que j'aime ce texte du Christ lui-même en Jean 5, 24, qui dit ce qui suit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort, d'une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue, d'une vie de péché, d'une vie de corruption, à la vie en Christ, au salut, au royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est renaître. C'est repartir à zéro, comme nous l'avons entendu tout à l'heure par ces jeunes. C'est repartir comme tout à nouveau dans la vie. Et ceci, quel que soit notre âge. Le Seigneur m'a fait la grâce, ces années passées, de conduire à lui des centaines de jeunes. Et j'ai vu des jeunes de tous bords venir au Christ. Des jeunes drogués, des jeunes étudiants, toutes sortes de jeunes, et passer par cette même nouvelle des chances qui change l'individu. Cette nouvelle naissance s'adresse aux adultes. Elle s'adresse aux personnes âgées. Elle s'adresse à l'individu, quel que soit son âge et où qu'il vive, ici-bas sur cette terre. Elle est pour tous les hommes, et seuls iront au ciel ceux qui seront passés par cette nouvelle naissance. Pour mieux la comprendre, et parce que cette nouvelle naissance est le seul moyen de satisfaire pleinement ce besoin de changement qu'éprouve l'homme d'aujourd'hui, il nous faut prendre l'illustration de la chenille qui devient papillon. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un papillon ? Un papillon, c'est un insecte né deux fois. Une première fois chenille et une seconde fois papillon. C'est le même insecte né deux fois. Mais on ne fait plus attention à ces choses. Pourtant, la métamorphose est un phénomène miraculeux, prodigieux. C'est quoi une grenouille ? C'est aussi un être né deux fois. Une libellule, ces belles libellules là que nous avons coutume de voir en été, leurs ailes bleutées frôlant la surface des eaux d'une rivière ou d'un lac. Mais c'est encore un insecte né deux fois, la libellule. Il nous faut donc naître deux fois. Quelqu'un disait que la nature autour de nous est comme une parabole de la grâce. C'est Vinet qui écrivit ce qui suit. Et ce papillon, n'est pas venu au monde papillon. Il est d'abord venu au monde chenille. Puis tout à coup, à un certain moment de son existence, il a comme répondu à un appel profond. Un appel au changement. Un appel irrésistible. Il s'est donc ensuite enfermé dans un cocon, dans une chrysalide. Et quelque temps après, il en est sorti tout. Changé, tout transformé. Savez-vous que la Bible parle de métamorphose en parlant de changement, du changement de l'homme? En Romains 12, par exemple, 12, 2 et 3, quand l'apôtre écrit ce qui suit, n'ayez pas les schémas de ce siècle. Je crois que nos livres, nos Bibles second disent ne vous conformez pas au siècle présent, alors que au plan littéral, au plan du texte grec, il faut lire, n'ayez pas les schémas du siècle présent, mais soyez, second dit, transformés. Mais le texte grec est le suivant, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible donc parle de la métamorphose en parlant de ce changement qui doit nous caractériser pour que nous allions dans les schémas de Dieu, quittant les schémas de ce monde. Voilà pourquoi j'aime lire ce texte. J'allais dire au niveau de l'original, quittez donc les schémas de ce siècle, les schémas de ce monde, ces façons de penser, ces structures, pour prendre les schémas de Dieu, qui sont des schémas de vie, des schémas de rédemption, des schémas d'amour, des schémas de paix. Oui, des schémas de salut. Et nous quittons ces schémas de corruption, de mensonge, d'adultère, d'orgueil. Nous les quittons pour aller dans les schémas de Dieu par la métamorphose, la nouvelle naissance. Et pour bien vous faire comprendre que la nouvelle naissance n'est pas une amélioration que nous essayons de nous accorder, ou il est un proverbe qui dit « chasser le naturel, que fait-il ? » Il revient au galop. Peut-être en va-t-il du monde des chenilles comme du nôtre. Il se peut qu'une chenille, on ne le sait pas, à force d'éducation, puisse devenir meilleure chenille. Il y a peut-être dans l'univers des chenilles bien. Hein, des chenilles du type Nicodème. Des chenilles toutes de noir habillées, toutes de blanc habillées, etc. Il y a toutes sortes de chenilles. Il y a peut-être des chenilles honorables, respectables, des chenilles religieuses. Et peut-être même y a-t-il dans ce même monde toujours d'autres chenilles, elles impossibles à vivre. Des chenilles turbulentes, des chenilles... difficile, oui, des chenilles violentes. Quand je parle aux jeunes, je leur dis des chenilles disco. Hein? On ne sait pas. Il y a peut-être toutes sortes de chenilles. Mais vous conviendrez avec moi que les chenilles bien, comme les autres, ont toutes besoin de la métamorphose pour devenir papillon. Parce qu'une chenille, peut-être à force d'éducation, peut devenir meilleure chenille, mais rester chenille. Et il y a encore une grande différence entre une meilleure chenille et un papillon. Hein. Vous en avez qui se rendent meilleure chenille à force d'éducation, à force de religion, etc. Mais ils restent chenille. Ce qui importe, c'est de devenir papillon. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et cette opération, Dieu l'effectue quand il trouve en nous ces dispositions qu'il agrée. Quelles dispositions ? La repentance et la foi. Lorsqu'il trouve en nous ces dispositions, il répond, il opère en nous ce changement sans lequel personne ne peut être sauvé. pourquoi la nécessité de la nouvelle naissance? Tout à l'heure, nous insistions sur le fait que personne ne vient au monde chrétien. Personne. On ne naît pas chrétien. Par contre, alors il faut le retenir aussi, nous naissons pécheurs. Nous naissons pécheurs. On ne devient pas pécheur, on est pécheur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la chair est ce véhicule qui transmet le péché d'une génération à l'autre. David au psaume 51 dit « Ma mère m'a conçu dans le péché, elle m'a enfanté dans l'iniquité. » Et en Job 14:4, nous pouvons lire ce texte « Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Ça ne se peut pas. » Voilà pourquoi il faut changer de vie. Nous naissons pécheurs. Alors quand on affirme cette grande vérité biblique, on nous renvoie la balle en ces termes très souvent. Alors pourquoi Dieu accuse-t-il encore quand non seulement nous n'avons pas choisi de vivre, mais que nous sommes venus au monde pécheurs? Alors à cela je réponds bien sûr, il n'est rien dans la Bible qui, disons, porte un doigt accusateur sur notre condition de pécheurs. Il n'y a pas de reproche qui nous soit fait en tant que pécheurs de condition. Un texte, par exemple, comme celui-ci, « Ce que j'ai contre toi, hein, c'est que tu sois né pécheur », ça n'existe pas. Qu'est-ce que Dieu nous reproche dans la Bible? C'est que nous restions dans nos péchés quand il a donné, en Christ et par la croix, la possibilité d'en sortir. Voilà ce que Dieu nous reproche. Le Christ est venu pour faire de nous des hommes nouveaux, des hommes selon le cœur de Dieu, des hommes qui apprennent à aimer Dieu, des hommes changés, des hommes métamorphosés. Pour ce faire, il change notre cœur. Écoutez donc ce texte, par exemple, en Ézéchiel 36, 26, où le prophète, où Dieu dit par la bouche du prophète, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, j'y mettrai un autre cœur. Ça, Dieu peut le faire, il peut le faire pour vous. Il l'a fait pour la grande majorité d'entre nous. Dieu a-t-il changé votre cœur? Le Christ est-il entré chez vous? Êtes-vous né de nouveau? Nous naissons pécheurs. Nous ne le devenons pas. Nous arrivons au monde avec une tache sur notre cœur, puis ensuite, cette tache, ce péché prend les formes que nous savons, les expressions que nous savons. Et pour nous qui sommes parents, nous savons que nous n'avons pas mis au monde des petits saints. Hein, vous qui êtes parents, vos enfants, des petits saints? Je me souviens, vous savez que j'ai deux filles, elles sont très belles, paraît-il. Elles ressemblent à leur papa. L'aînée, un jour est venue vers nous, alors qu'elle était petite, bien sûr, le bras douloureux, nous disant, Élisabeth, donc la seconde, Élisabeth m'a mordu. Et Élisabeth, à l'époque, était encore bébé, en train de devenir fillette, petite fille. Et cette Élisabeth, qui est en ce moment en Amérique du Nord, dans un camp, qui a maintenant 18 ans, venait juste de recevoir ses petites dents, hein. Ces petites quenottes qu'avec ma femme Jeanne, nous avions attendues presque religieusement. Et de ces tendres quenottes, un jour, elle mordit Myriam, sa sœur. Et Myriam alors de venir en pleurant, « Élisabeth m'a mordu avec ma femme. » Nous avons mis de l'ordre dans cette affaire. Mais ensuite, nous nous sommes quand même posé la question, « Mais qui a appris à Élisabeth à mordre ?» Élisabeth, à l'époque, n'allait pas en classe, elle n'allait même pas à la maternelle. Et les seules personnes sur lesquelles elle aurait pu copier cela, c'était ses parents. Or, je peux vous affirmer qu'avec Jeanne, ma femme, on ne se mord jamais. C'était une façon chez elle d'exprimer le péché qui déjà l'habitait. On ne naît pas chrétien, on est pécheur, tous sont des pécheurs. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dit la Bible, tous, hormis le Christ, lui n'a jamais péché. Voilà pourquoi il est notre seul espoir. Il a été le seul homme ayant foulé le sol de notre terre sans jamais avoir péché. Il a dit aux Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Sa vie a été pure, sainte, juste, limpide. Et à ce point, sainte, qu'elle en devenait insupportable. Voilà pourquoi seul le Christ est notre espoir, parce qu'il n'a jamais péché. Et cette vie qui a été la sienne, il voudrait qu'elle puisse couler en nous, nous la donner. Il voudrait vivre en nous. Et c'est ainsi qu'en nous naît cet homme nouveau, à son image. Un éminent psychologue de l'heure, le docteur Pierre Dacot, dans son ouvrage « Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne » affirme ce qui suit. Le tréfonds d'un papou est à peu près semblable à celui de l'homme habitant les régions les plus civilisées du globe. Et d'ajouter encore ce qui suit, le tréfonds des hommes est identique. Au fond, nous n'avons pas changé depuis des millénaires, nous n'avons pas changé dans notre tréfonds, sauf si nous nous sommes confiés à Dieu. L'homme est resté le même, il a changé énormément de choses autour de lui, il a changé même la face des choses. Mais ce qu'il n'a pas réussi à changer, c'est son cœur, hein, ses profondeurs, il n'a jamais changé cela. L'homme ne peut pas se changer lui-même. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est désespérément mauvais. Mauvais à cause du péché. À cause du mal, à cause de la rébellion, à cause du mensonge, de l'adultère, à cause de l'envie, de la jalousie, de la haine. Il est mauvais, désespérément mauvais. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Si un jour nous devions nous présenter devant Dieu avec ces cœurs naturels que nous avons dans nos poitrines en ce moment, ce serait terrible. Terrible ! Voilà pourquoi Jésus a insisté, et ça n'est pas à un brigand qu'il a dit ça, ni à un homme sans foi ni loi. C'est à Nicodème, il lui a dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Nicodème, tu es chargé de sciences religieuses, tu es un homme très expérimenté, il te manque une chose importante, capitale, essentielle, la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes né de nouveau, jeune, moins jeune? Je ne demande pas à quel horizon chrétien vous appartenez, ça n'est pas cela qui compte. Je vous demande si vous êtes passé par la nouvelle naissance qui change l'homme. Et lui donne un autre cœur, un cœur qui aime Dieu. Et ce que je vais peut-être vous dire, vous, va vous étonner. Vous ne le saviez peut-être pas jusqu'à ce matin. C'est pourtant vrai, c'est écrit, nous l'avons entendu tout à l'heure. Dieu a besoin que vous l'aimiez. J'ai découvert que Dieu a besoin que je l'aime. Dieu a besoin que l'homme l'aime. Nous parlons souvent de l'amour que Dieu nous voue. Et en effet, Dieu nous aime énormément. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu voudrait être aimé de nous en retour. Voilà pourquoi ce texte, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Si Dieu n'avait pas besoin que nous l'aimions, jamais nous ne trouverions de pareils textes dans les Saintes Écritures. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment ?» Une heure le dimanche matin. C'est souvent ainsi que les choses sont saisies, sont comprises. Non, tu l'aimeras de tout ton cœur. Est-ce que nous l'aimons ainsi? Tu l'aimeras de toute ton âme. Tu l'aimeras de toute ta pensée. C'est-à-dire de toute ta tête, de toute ton intelligence. et tu l'aimeras de toutes tes forces, tu mettras toutes tes énergies à prouver, à manifester que tu aimes l'Éternel ton Dieu. Voilà comment Dieu voudrait que nous l'aimions. Et tant que Dieu n'est pas aimé ainsi, il n'est pas heureux. Vous savez, si vous me demandiez de dessiner Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire? Un jour, une fillette qui avait certaines dispositions pour la peinture est allée vers sa maman pour lui dire « Maman, je voudrais dessiner Dieu. Dis-moi comment il est. » Alors sa maman, embarrassée, de lui dire « Écoute, Dieu, ça ne se dessine pas. Parce que Dieu est trop beau, il est trop grand, trop saint, trop majestueux, il est esprit, tu ne peux pas dessiner Dieu. » Et cette fille alors de dire à sa maman « Ah bon, Dieu sait tout ça. Alors si Dieu sait tout ça, je n'essaierai pas de le dessiner parce que je lui ferai trop de mal. » Dieu donc ne peut pas se dessiner. Mais quand on veut dessiner l'amour, parce que la Bible dit que Dieu est amour, hein, l'amour chez Dieu n'est pas un sentiment au niveau de son cœur comme c'est le cas général chez nous. L'amour chez Dieu, c'est son cœur même, sa personne même, sa nature même. Dieu est amour. Alors, quand on veut dessiner l'amour, que fait-on généralement? Allez, les jeunes. Un cœur, bien sûr. Ou, en haut et à gauche de la page, hein, quand on écrit à sa fiancée. C'est ce que je faisais quand j'écrivais à Jeanne, lorsque j'étais militaire en Algérie. Un cœur en haut et à gauche, hein. Quand on veut dessiner l'amour, on dessine un cœur. Alors, si vous me demandiez de dessiner Dieu, c'est un cœur que je ferais. Mais un cœur trop grand pour une page. Hein? Même recto verso. Un cœur trop grand pour la Suisse, trop grand pour la France. Un cœur trop grand pour le monde, pour les univers et les mondes. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Alors Dieu est un immense cœur qui bat pour vous, qui bat pour moi. Vous ne le saviez pas, mais Dieu vous aime au point que son cœur batte tous les jours pour vous. Mais si un cœur a vocation d'aimer, un cœur a aussi vocation d'être aimé. Et si un cœur n'est pas aimé en retour, il n'est pas satisfait, il est triste. Et je pense que le cœur de Dieu est aujourd'hui triste parce qu'il aime le monde, c'est écrit. Dieu a tant aimé le monde. Et là, le monde aujourd'hui vit comme si Dieu ne l'aimait pas. Dieu vous aime. Et en retour, il cherche quoi? Que vous entriez dans la meilleure religion, mais certainement pas. Il cherche simplement votre amour et votre cœur. N'avez-vous jamais remarqué le Christ en quête d'affection dans les évangiles? J'ai fait une étude là-dessus. J'en ai été soufflé. Le Christ ayant besoin d'être aimé des hommes. Leur disant son amour, mais leur disant aussi qu'il avait besoin d'être aimé d'eux. Vous n'avez jamais lu, par exemple, le Christ disant « Si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, Pierre, m'aimes-tu ?» Mais le Christ a besoin que vous l'aimiez. La véritable religion consiste en quoi? J'écris un livre en ce moment, d'ailleurs je l'ai achevé à cet égard. La véritable religion, celle que Dieu voudrait nous voir vivre chaque jour, consiste dans une relation d'amour avec Dieu par Christ. C'est cela la meilleure religion, en quelque sorte. Elle consiste dans une relation véritable, authentique, dans une relation de tous les instants, de tous les jours, pas du dimanche matin seulement. Et quel bonheur de cheminer ici-bas avec le Sauveur, entretenant avec lui une relation d'amitié. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Êtes-vous né de nouveau? Votre cœur aime-t-il le Seigneur sans la nouvelle naissance, hein? Rien à faire. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas l'aimer avec ces cœurs qui sont en nous, comme ça naturellement. Nous ne sommes pas enclins à aimer Dieu. Naturellement, au contraire, nous sommes brouillés avec lui. Que se passe-t-il au moment de la nouvelle naissance? Écoutez bien. Non seulement le Christ nous change par sa parole, par son esprit, faisant de nous des êtres nouveaux, mais il nous donne les moyens de l'aimer en retour. C'est ce qui s'est passé chez moi. Je n'ai encore rien compris à cette affaire. Je la vis chaque jour. Dieu m'a donné les moyens de l'aimer en retour. C'est lui qui a mis en moi tout ce qu'il faut pour l'aimer en retour. De sorte qu'entre lui et moi s'est établie cette relation d'amour. Il m'aime, mais je l'aime aussi. Oh, pas comme... Il l'attendrait, bien sûr, je sais que mon amour est insuffisant. Et puis, comment naître de nouveau? Il faut le vouloir. Il faut le désirer de toutes ses forces. Hein, il faut absolument le désirer. Et comment manifeste-t-on qu'on désire réellement cette nouvelle naissance qui change la vie? En prenant conscience de ce que nous sommes devant Dieu, c'est-à-dire des pécheurs perdus, pour lesquels il n'y a plus d'espoir si cette nouvelle naissance n'a pas lieu, si Christ lui-même n'intervient pas en nous. La repentance, c'est quoi? Au niveau du grec, là encore, il y a une idée de changement. Métanoïa en grec signifie « changer d'avis ». Et n'existe-t-il pas en français le dicton suivant? Pour changer de vie, changeons d'avis. Changer d'avis, c'est se repentir. Et se repentir, c'est changer de vie. Voudriez-vous ce matin venir à Dieu tel que vous êtes dans la repentance, disant « Seigneur, je sais ce que je suis. Tu connais ma vie profonde, celle que personne ne voit. Et tu me sais, pécheur, devant toi. Je le suis. » J'en prends conscience ce matin, je veux que ça change. Je veux un cœur nouveau, je veux un cœur qui t'aime. Je veux changer de vie. Le Seigneur vous entendrait si vous veniez à lui dans la repentance, dans ce changement d'avis quant à vous et quant à lui. Mais aussi dans la confiance, il faut la foi. Vous venez dans la foi, dans la confiance, vous vous jetez dans les bras du Christ qui vous accueille. Il a dit « Je ne mets point dehors celui qui vient à moi ». Et alors s'opérera en vous ce changement, ce véritable changement, qui n'a rien à faire avec le changement de l'homme. Et savez-vous que le seul espoir aujourd'hui pour une humanité en déroute et complètement déboussolée, qui va à la ruine et à la perdition, c'est la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne verra point le royaume de Dieu. Mais peut-être dites-vous, j'essaie, Monsieur Choitier, de changer tout dans ma vie. Hein, j'essaie de me changer moi-même. J'essaie, non. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous pourrez changer les choses autour de vous. Vous ne pourrez rien changer de ce qui est en vous. Seul Christ peut le faire, cela. Et quand nous ne sommes pas nés de nouveau, nous vivons la mort déjà. Parce que le péché, c'est la mort qui coule déjà dans nos veines. La Bible dit que le péché nous tue, lentement, mais sûrement, à petit feu, mais certainement. Il colle à nous comme notre peau, il est dans nos veines, nous ne pouvons pas nous détacher, nous séparer de lui. Tandis qu'elle nous dit encore que sur la croix, le Christ, par son sacrifice, s'est employé à faire de nous des hommes nouveaux, en abolissant le péché et sa puissance par son sacrifice. La croix s'est rendue maître du péché, elle l'a vaincu. Il y a assez de puissance dans la croix de Christ ce matin pour faire de vous un jeune homme nouveau. Un homme nouveau. Une jeune fille nouvelle, une femme nouvelle. La croix est le départ de la nouvelle création de Dieu. La croix pourrait marquer votre vie. Elle pourrait marquer une date dans votre vie, ce matin. Et ce matin, cette date d'aujourd'hui pourrait s'inscrire dans les cieux si vous vous ouvrez au Christ pour naître de nouveau. Si ce matin, dans la repentance et la foi, vous vous jetiez dans ses bras pour qu'il vous sauve. Le voulez-vous ? On raconte qu'en Angleterre, à Hyde Park, dans ce coin qu'il est convenu d'appeler le coin des orateurs, se trouvaient un jour deux orateurs. L'un était un orateur politique et l'autre un orateur évangéliste. Et ils avaient chacun son auditoire devant lui, quand tout à coup, entre les deux auditoires, un pauvre homme vint à passer, tristement vêtu d'un costume usé. Et notre orateur politique, en le désignant du doigt, de dire à ses auditeurs, regardez vers cet homme, c'est une honte pour l'Angleterre d'aujourd'hui. Si l'Angleterre versait dans mon parti politique, on ne verrait plus ce genre de choses, je vous le promets, hein, que de promesses. Ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et l'ami évangéliste à côté, de dire à son auditoire, continuez de regarder vers cet homme. Suspense au niveau des deux auditoires. Si cet homme, dans ce vieux costume, naissait de nouveau maintenant, que se passerait-il ? Il pourrait encore un temps, peut-être, porter sur lui ce costume qu'il a. Mais dans ce vieux costume, il y aurait un homme nouveau. Vous savez, l'homme change ce qui est à l'extérieur. Dieu, lui, change ce qui est à l'intérieur. Victor Hugo a dit, les révolutions changent les structures, pas l'homme. Dieu, lui, change l'homme. Et après l'avoir changé, il peut changer autre chose. Voudriez-vous venir au Christ pour qu'il vous change ? Vous, chrétiens, peut-être d'éducation, de tradition ? Vous, jeunes, venus au monde dans une famille chrétienne, peut-être, mais qui n'êtes pas encore passés par la nouvelle naissance ? Il faut que vous naissiez de nouveau, dit Jésus. Voudriez-vous venir au Christ, vous qui, ce matin, n'êtes pas du tout sûr de votre salut, de votre nouvelle naissance. Ce matin, Dieu veut sauver, c'est certain, non seulement ici, mais partout, ailleurs dans le monde. La Bible dit, si quelqu'un croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Vous allez me dire, mais je veux bien essayer, je veux bien, mais comment verrai-je que je suis né de nouveau ? Peut-on se marier sans s'en apercevoir ? Combien êtes-vous à vous être marié sans vous en apercevoir ? Vous êtes un jour retrouvé marié ? Non, il a fallu un jour dire oui à l'autre, hein ? Il a fallu que je dise oui à Jeanne il y a 21 ans. Tenez, la semaine dernière, nous avons fêté notre 21e anniversaire de mariage. Il a fallu dire oui. Il s'est passé un moment. S'est-il passé un moment dans votre vie où vous vous êtes jeté dans les bras du Christ pour votre salut ? J'aimerais vous en donner une occasion. Alors, que se passera-t-il ensuite ? Eh bien, ce qui suit, la Bible dit que... Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit qui est venu nous habiter, qui a fécondé en nous cette parole au plan spirituel, qui a produit en nous cet homme nouveau, cet être nouveau, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avez-vous dans votre cœur le témoignage du Saint-Esprit ? Et puis la Bible dit encore que quiconque est né de Dieu pratique la justice. Son corps était tortueux, il ne marchait pas droit auparavant, maintenant il est dans la justice de Dieu. La Bible dit que quiconque est né de Dieu aime, etc. On peut vérifier chez nous cette nouvelle naissance de cette manière-là. Et quelle joie alors de se savoir enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance qui nous rend enfant de Dieu, rien d'autre. Est-ce que vous êtes né de nouveau ? Voudriez-vous venir au Christ ce matin ? Sinon, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Jésus dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Hier, j'écrivais un message À l'adresse de ceux et celles qui disent que pour finir, on sera tous sauvés. Alors, un message pour la radio. Alors, à mes auditeurs, j'ai dit, écoutez, je ne trouve pas ça dans les Écritures. Et pourquoi prendre du Christ seulement ce qui nous plaît? S'il a parlé du ciel et du royaume de Dieu et d'amour, il a aussi parlé de jugement et il a parlé d'enfer. Alors la nouvelle naissance nous fait passer de son côté. Elle nous jette dans ses bras et nous commençons de vivre une vie nouvelle. Voudriez-vous que Dieu change ce qui est dans votre veste, sous votre chemise, derrière votre cravate? Voudriez-vous que Dieu change votre cœur ce matin? Venez à lui, j'aimerais vous en donner une occasion. J'aimerais prier quelques instants pour ceux et celles qui, ce matin, sont touchés par la prédication de l'Évangile. Vous qui n'êtes pas nés de nouveau ce matin et qui désirez ardemment que Christ vous sauve, vienne vers vous, vous change. Repentez-vous maintenant de vos péchés. Dites au Christ, Seigneur, pardon. Dites-lui, parce que c'est pour moi que tu es mort, à cause de moi. Seigneur, je suis pécheur devant toi ce matin. Aie pitié de moi. Tu as sur la croix, dites-lui, tu as été blessé, meurtri, tu as été déchiré, tant dans ton corps que dans ton âme, à cause de moi. Seigneur, pardon. Et tu vois que je suis sur une voie de perdition. Seigneur, reprends-moi, rattrape-moi, sauve-moi. Seigneur, je viens à toi maintenant. Seigneur, entends-moi. Et je veux te faire confiance à partir de ce matin. Je veux te faire confiance. Seigneur, je me jette dans tes bras. Reçois-moi, accueille-moi, qu'à partir de ce matin, je t'appartienne. Je sois à toi, que je naisse de nouveau. Seigneur, mets en moi les moyens de t'aimer, d'apprendre à t'aimer, en apprenant à te connaître dans ton livre, la Bible. Seigneur, entends-moi. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Rencontre ceux et celles qui, en ce moment, crient à toi, ayant compris leur perdition. Seigneur, tu dis, je ne mets point dehors celui qui vient à moi. Tu les accueilles, qu'à partir de ce matin, ils soient à toi, ils t'appartiennent, qu'ils apprennent à te connaître, toi, dans ton livre, qu'ils grandissent en toi. Seigneur, visite-les de manière toute particulière, c'est notre prière. Entends-la, nous te la disons au nom de Jésus. Amen.